avouons-le, à l'écoute de ce récit, nous sommes tentés de croire que le Seigneur aujourd'hui vient nous faire la morale, de la morale socio-économique. Et d'ailleurs, d'une manière plus générale, il nous faut une écoute attentive, patiente et priante des évangiles pour ne pas en faire trop vite un ouvrage de morale. Il nous faut une écoute attentive, patiente et priante des évangiles pour comprendre ce qui est écrit. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Car Dieu n'érige pas Jésus comme un maître de morale, Jésus vient en sauveur. Mais pour autant, dans son enseignement, devant les foules ou lorsque quelqu'un vient à lui, il n'hésite pas à désigner les domaines de l'existence où le salut qu'il apporte aux hommes est menacé, de par leur propre conduite, leur propre mauvais choix. Oui, Jésus dénonce toujours avec beaucoup de force ce qui peut rendre l'homme esclave et malheureux. Et n'en déplaise à certains détracteurs du christianisme, dans ces cas-là, Jésus ne parle pas de sexe, il parle d'argent. Si nous écoutons le Christ, c'est bien notre rapport à l'argent, aux richesses, qui nous expose à nous éloigner dangereusement de Dieu. Il faut dire que dans les sociétés humaines, l'argent apporte si ostensiblement sécurité, confort, pouvoir. Comment ne pas être tenté de croire que les richesses sont ce qui va écarter de nous les dangers, ce qui va nous faire tenir bon? Comment ne pas être tenté de croire que être riche, le rester ou l'être de plus en plus, c'est ce qui va me permettre d'être vivant, de le rester, de l'être de plus en plus? Être vivant, le rester, l'être de plus en plus parce qu'on est riche. Voilà que les richesses se posent parmi les hommes, littéralement, en idole, en rival du Dieu de la vie. L'origine, la source de la vie, c'est le Seigneur, mais nous ne le voyons plus. Et c'est l'argent qui captive notre regard, qui mobilise toutes nos énergies. Et c'est alors que cet avertissement violent de Jésus se fait entendre. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh, il faut que nous entendons bien ce qui nous est dit. Entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ici aller un jour au paradis. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est dès maintenant, sur cette terre, faire l'expérience de Dieu. Faire l'expérience de sa présence parmi les hommes, se laisser porter par son esprit, éclairé par sa lumière, savourer la vie, le bonheur qu'il donne. Et bien souvent, trop souvent, nous le savons bien de notre Dieu, sa présence est discrète, son esprit déconcertant, sa lumière est fragile. La vie qu'il donne ne met pas à l'abri des difficultés, des adversités, des combats. Si bien qu'entrer dans le royaume de Dieu, c'est se lancer dans une aventure. C'est courir un risque, un beau risque, d'accord, le plus beau, mais un risque tout de même. Et le jeune homme que Jésus, enfin dit le jeune homme, non, il n'y a pas d'âge dans ce texte, l'homme que Jésus rencontre ce jour-là, lui n'est guère disposé à l'aventure. Nous avons peut-être fait attention aux mots qu'il emploie. Il ne désire pas entrer dans le royaume, entrer dans la vie. Il parle d'avoir la vie éternelle en héritage. Pour les héritages, il y a un règlement, des lois bien établies. Un héritage, ça se maîtrise, ça se gère, c'est du solide. Cet homme veut du solide. Sa foi est solide, depuis sa jeunesse. Il a mis sa foi en Dieu du côté des valeurs sûres. Il n'a pas tort. Et ce qu'il n'a pas encore découvert, et ce que Jésus lui révèle ce jour-là, avec beaucoup de fermeté, mais aussi avec beaucoup de douceur, L'évangile de Marc écrit « Jésus posa son regard sur lui et il l'aima ». Ce que cet homme n'a pas encore découvert du Dieu de la vie, c'est que cette vie éternelle, cette vie divine qui lui est offerte aujourd'hui, n'offre pas de garantie. Au contraire, elle expose. Elle n'est pas quelque chose qu'on tient solidement dans sa main. Au contraire, elle nous échappe toujours. Elle nous entraîne. On ne sait jamais où. Les grands biens que cet homme possède occupent sa main et son esprit. Ils l'immobilisent de corps et de cœur. Pour le moment, ces grands biens l'empêchent de pouvoir courir l'aventure de la vie. Alors ce jour-là, il s'en va tout triste. Nous ne savons pas si un jour il laissera s'épanouir jusqu'au bout son désir de Dieu, c'est leur affaire à lui et à Dieu, mais notre affaire à nous aujourd'hui. Comment est-ce que je reçois cet avertissement sévère, on pourrait dire impitoyable de Jésus, à propos des richesses qui peuvent m'empêcher d'entrer dans l'aventure de la vie avec Dieu? Et d'abord, de quelle richesse s'agit-il? S'agit-il seulement d'un compte en banque, de biens immobiliers, d'actions en bourse? C'est plutôt la question, où donc sont mes sécurités? Est-ce uniquement dans l'argent? Ou est-ce dans ma famille, dans mes relations, dans mon savoir, dans mes facultés intellectuelles? Car telles sont bien les richesses que l'Évangile dénonce. Parmi les biens même légitimes que je possède et qui semblent offrir à ma vie consistance, solidité, harmonie, qu'est-ce qui m'empêche d'accueillir, qui me fait négliger, oublier cette vérité profonde? L'homme est fragile et cette fragilité, cette pauvreté radicale est précisément ce qui pousse Dieu à nous rejoindre, à marcher avec nous au milieu des difficultés. Quelles sont les richesses qui m'empêchent de me reconnaître en vérité totalement pauvre et pour cela totalement aimé de Dieu? C'est parce que nous sommes fragiles, menacés à tout instant par la mort, que le Seigneur vient nous offrir sa vie. Alors c'est ce que nous pouvons demander les uns pour les autres, que le Seigneur nous aide à négliger ce que nous appelons nos richesses pour toujours mieux découvrir notre pauvreté, pour nous réjouir de notre fragilité radicale. C'est elle qui nous rend aimables aux yeux de celui qui est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades.